13h-14h, Café Campus, Capitaine Barberousse.
Salut à vous, bordelais auditrices ou auditeurs de notre station. Allez, allez, venez, il pleut, venez passer un moment de vivre ensemble à la machine à café. Bon, on va parler d'un sujet sérieux aujourd'hui. Hein, vous le savez, les 15 et 22 mars prochains, nous votons pour élire notre future maire. C'est une lourde tâche hein, qui est parfois difficile. Hein. Et aujourd'hui, nous vous proposons de passer un moment avec nous à la machine à café pour rencontrer vos candidats. Ils sont 9 en lice, nous les avons tous contactés et certains ont accepté de venir expliquer leur démarche et écouter vos propositions. Alors, loin de moi l'idée de leur foutre la pression, mais ceux qui refusent de venir, ça en dit long sur la façon dont ils vous considèrent. Hein. Vous, la minorité qui n'écoute pas le top 40, qui choisit la radio de proximité, sans pub et faite par des gens comme vous, qui n'hésitent pas à sortir des sentiers battus. Bon, ben voilà, vous aurez votre réponse. Alors, autour de notre machine à café virtuel, j'ai réuni les meilleurs étudiants bénévoles de Radio Campus. Eléa, Hugo, Mélissa et Ludo qui n'est pas encore là. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Salut.
Ça, c'est de la pression.
Ça va? Bon, c'est vous qui avez plein de questions à poser à nos invités. Je vous ai vu travailler consciencieusement sur ce programme et je suis sûr que ça vous a même permis d'apprendre des choses sur Bordeaux que vous ne saviez pas auparavant. Pas vrai?
Peut-être, oui, quelques-unes.
Bah ouais, c'est ça qui est marrant. Bon, alors, avant de commencer, par contre, quels que soient nos idéaux, nos opinions, je voudrais qu'on encourage celles, puisqu'il y a une seule femme en lice, et ceux qui ont su d'abord nourrir des liens avec leurs voisins, avec leurs amis, peut-être se lever un matin et se dire qu'ils avaient envie de partager quelque chose. Une idée, une vision de leur ville, sacrifier leur quotidien, leur boulot, leur temps libre, pour le dédier à la communauté et pour le vivre ensemble. Ces gens-là, c'est pas n'importe qui. Ils sont prêts à discuter avec d'autres de notre avenir à tous. Ils sont prêts à se disputer pour défendre leurs idées, prendre de grandes responsabilités, être à votre écoute et tenter de répondre à vos attentes, tenter de contenter tout le monde, ce qui est encore moins facile. Peut-être même qu'au fond d'eux, ils se disent « Oh là là, alors si je suis élu, ça veut dire même le 8 mai, il va falloir que je me lève et que j'aille faire un discours. Et je vais même vraiment me taper l'inauguration de toutes les nouvelles assos, serrer les mains, même en période de coronavirus, sourire aux gens. Oh, l'horreur, quoi. » Mais bon, je le ferai parce que j'aime ça, parce que j'aime les gens. Je le fais pas pour moi, je le fais parce que je pense avoir des épaules suffisamment solides pour être un acteur d'une situation que je trouve pas terrible et qui s'améliore pour un meilleur vivre ensemble, quoi. Voilà, ça je le dirai à chaque fois et je tiens à ce qu'on applaudisse le courage de notre candidate aujourd'hui, candidate tête de liste de Lutte Ouvrière, Fanny Candal. Bonjour.
Bonjour, merci.
Vous allez bien?
Ça va bien.
Bon, vous êtes prête à serrer des mains, même en période de coronavirus?
Oui, alors ça, c'est le geste politicien. Enfin, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Nous, j'ai envie de dire, nous, on milite tout le temps qu'il y ait des élections ou qu'il n'y ait pas d'élections.
Exactement, et on vous voit souvent dans la rue aussi. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Café, thé?
Un noisette.
J'ai pas celui-là.
Ah là 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 là.
Bon, un café.
Elle m'a piégé. Allez, allongé.
Bonjour pour Café Campus.
Café allongé.
C'est bien, ça, au fur et à mesure, j'améliore mon stock de café.
Merci.
Vous savez que pour mieux vous connaître, Hugo vous a googlisé. Hugo, qu'est-ce que tu as appris de Fanny sur Internet?
Googlisé, c'est un terme un petit peu barbare, disons que
j'ai fait un, Google.
J'ai fait un petit peu des recherches par rapport à votre contexte. Donc j'ai commencé bien sûr par le site de Lutte Ouvrière où on apprend que vous êtes employé de poste, que votre engagement part du fait que vous avez remarqué que la poste, en fait, le travail était de plus en plus difficile pour que l'entreprise, en fait, soit profitable. Et Lutte Ouvrière a décidé de se lancer dans, d'après un article de Sud-Ouest, 5 villes différentes en Gironde. Alors, vous êtes un petit peu spécial par rapport aux autres candidats parce que vous n'avez pas de programme vu que vous avez défini que vous ne pensez pas au, encore une fois, je cite Sud-Ouest, attention, vous pouvez remettre en question, évidemment, vous inquiétez pas. Mais vous avez défini qu'en fait, Lutte Ouvrière avait un programme qui était national, que vous pensiez que les municipales, en fait, servaient avant tout au capitalisme et que ainsi, si vous vous présentez, c'est pour remettre en question ça et pour permettre de donner une parole ouvrière, en fait, à l'échelle municipale, mais pour des enjeux nationaux. Est-ce que du coup vous voulez remettre en question certaines des informations que j'ai trouvées? N'hésitez pas.
Les approfondir parce qu'effectivement c'était un article de Sud-Ouest qui date du mois de novembre, qui a été fait au moment de notre fête annuelle, voilà. Et c'est le moment où on a dit, ben, on rentre en campagne, ça y est, on se lance pour les municipales à Bordeaux, Mérignac, Bègles, Langon, Libourne. Ce qu'on fait aujourd'hui, on est très content d'avoir réussi à faire ces listes, avoir trouvé des colistiers et avoir démarré les campagnes. Alors j'ai réagi juste sur le fait que effectivement, dans Sud-Ouest, c'est écrit, on n'a pas de programme local, on a un programme national. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait exact, puisque ce qu'on dit, ça permet d'expliciter, en fait, hein, ce qu'on pense. Ce qu'on dit, c'est qu'en fait, le problème de la classe ouvrière, des étudiants, des retraités, des chômeurs, aujourd'hui, leurs problèmes, ils sont, j'ai envie de dire, nationaux et même internationaux. C'est le chômage, la précarité, les revenus, c'est-à-dire les pensions de retraite, les allocations, les salaires, etc., qui sont insuffisants pour une grande partie de la population. Et donc, ce constat-là et cette critique-là, elles sont même au niveau de la planète. Hein, voilà.
Ouais, vous voyez ça sur toutes les villes.
Bien sûr, on le voit tous. Mais en revanche, moi j'insiste, si on porte nos candidatures sur des villes spécifiques, c'est parce qu'on a des choses à y dire. On a des choses à y faire. Et moi, si je suis candidate à la tête d'une liste qui compte 65 colistiers et colistières, c'est pour dire que... Voilà, c'est pour aussi parler de Bordeaux. Alors, on aura le temps de développer autour du petit café tout à l'heure, je pense.
Allons-y tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez du Bordeaux actuel?
Bordeaux actuel, la municipalité actuelle, moi, j'estime qu'elle sert à un camp de la société qui n'est pas le camp des travailleurs, qui n'est pas le camp de tous ceux que je viens de citer. Cette municipalité, elle est au service du camp des capitalistes. Je prends un exemple, les bétonneurs. Voilà. Le grand stade, la cité municipale, donc des grands ouvrages en terre bordelaise qui ont une utilité, peut-être un petit peu limitée, un coût considérable, qui engage un endettement sur des années et des années. Hein, ce sont des PPP, partenariats publics-privés. Et surtout, je dis qu'ils ont une utilité relative au regard de ce qui serait nécessaire en termes de besoins de logement, besoins de structure pour la population. Donc vous voyez, sur Bordeaux, il y a beaucoup de choses à dire très localement. Mais c'est vrai que le constat du manque de logement, du manque d'infrastructure, je choisis de commencer par ce thème-là, c'est une situation qui est commune à, malheureusement, des dizaines de milliers de communes, y compris celles dans lesquelles on n'a pas de liste lutte ouvrière dans ces élections. Voilà.
Et vous avez une explication à ça? Vous pensez que c'est uniquement par l'opinion et la pensée des gens qui sont en place à la municipalité qu'on est arrivé à ces conséquences-là?
Non, moi je suis marxiste, matérialiste, et je pense que ce ne sont pas les idées des gens qui font les choses, mais vraiment l'organisation matérielle de la société. Aujourd'hui, la société, elle est organisée... en mode capitaliste. Ça veut dire que, clairement, la propriété privée des usines, des entreprises, des moyens de production, cette propriété privée, elle est concentrée dans les mains de quelques-uns, les grands patrons, alors en France c'est le CAC 40, mais il n'y a pas que le CAC 40, des très grands patrons, des très grandes entreprises, et puis les grandes banques aussi. Et ce sont ceux-là qui dictent leur ordre à la société. Je prends un exemple local, encore une fois, la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort, qui a provoqué le licenciement de près de 900 salariés, plus la suppression de 2000 emplois induits autour. Qui a le pouvoir? C'est Ford. Oui, c'est un grand groupe qui fait des milliards de profits depuis des années et des années. Ce sont ces gens-là qui ont le pouvoir aujourd'hui. Et donc, pour revenir à la municipalité, eh bien, Bouygues, Vinci, Fayette, on peut citer les noms, c'est sur les palissades des chantiers, et c'est surtout sur les lignes du CAC 40. Ce sont eux qui, en fait, dictent leurs ordres. Donc, les municipalités, quelles que soient, et là, c'est important parce que, OK, Bordeaux, c'est une ville de droite, une municipalité de droite, OK, mais c'est vrai dans d'autres villes, des municipalités PS, etc., En Marche, j'en passe, c'est les pires, C'est pareil, en fait. C'est pareil. Ces grandes villes, elles servent de vache à lait à ces capitalistes. Alors, du béton, par exemple. Mais donc, peu importe les idées qu'ont les maires et leurs conseillers municipaux, et ça, c'est un truc important sur lequel je veux insister aujourd'hui, le pouvoir, il est à l'argent, pour utiliser une vieille expression. Et donc, c'est pas une question d'idées. C'est vraiment une question d'organisation de la société, d'organisation économique. Du coup, ce qu'on dit, nous, dans ces élections, et ce qu'on dit, d'ailleurs, tout le temps, y compris quand on tracte à la fac ou qu'on tracte devant les entreprises dans lesquelles nous sommes présents tout au long de l'année, année électorale ou pas, ce qu'on dit, c'est que pourquoi ça serait pas le monde du travail qui fait tout tourner dans cette société, qui bosse, qui construit, qui éduque, qui soigne, qui fabrique, qui fait tout, pourquoi ça serait pas lui qui aurait ce pouvoir? Et on est les plus nombreux, on est les plus forts, mais on l'ignore.
Et comment vous comptez redonner le pouvoir au monde du travail en accédant à la mairie de Bordeaux, par exemple ?
Alors là, je vais être... Par contre, mauvaise nouvelle, ce n'est pas Fanny qui va redonner le pouvoir au monde du travail. Hein. L'émancipation des travailleurs viendra des travailleurs eux-mêmes. C'est une vieille phrase du mouvement ouvrier. Mais nous, on a la confiance que dans le monde du travail, il y a des travailleurs, des retraités, des chômeurs, des jeunes qui sont conscients de cet ordre social et qui le contestent et qui sont assez combatifs pour dire bah, « faut postuler au pouvoir ». Pourquoi le pouvoir, on le laisserait toujours à la classe capitaliste ? Pourquoi on partirait de cet ordre et on se dirait « bah voilà, c'est la fatalité, il n'y a rien à changer ». Nous, on pense qu'il y a moyen de le changer. Et alors, il faut que je sois claire, hein, ce n'est pas par la mairie de Bordeaux, avec ma seule petite personne, que nous pensons, hein, lutte ouvrière, changer les choses. Ce qu'on dit, c'est que ce drapeau, des luttes nécessaires, mais vraiment des luttes, et des luttes avec les outils du monde du travail, c'est-à-dire les manifestations, les grèves, quelle que soit leur échelle, hein, ça peut être très très local au niveau d'une petite entreprise, mais aussi au niveau national, on le voit dans le mouvement contre la réforme des retraites.
On le verra tout à l'heure à 14h, voilà. Notamment sur le monde enseignant.
Oui, exactement, ouais. Voilà, pour tout le monde, ces luttes-là, elles sont nécessaires. Et c'est ce drapeau-là qu'on agite dans les élections municipales. Hein. Nous, on ne dit pas lutte ouvrière, si on a la mairie, votez pour moi, on va raser gratis demain. Où on aura une baguette magique, on fera ça. Non, nous, ce qu'on dit, c'est, si vous votez pour nous, s'il y a des élus lutte ouvrière, ou même s'il y a un conseil municipal lutte ouvrière en France, eh bien, il faudra se battre. Il faudra se battre. Les travailleurs, ils devront se battre. Les habitants des quartiers devront se battre pour trouver des logements. Les familles, elles devront s'organiser pour que tous les gamins aient accès à l'éducation, à une nourriture correcte, etc., etc. Mais au moins, dans ces mairies-là, là où il y aurait des ouvriers, des travailleurs, eh bien, les mairies, elles pourraient servir de point d'appui à ces luttes-là, de point d'appui. C'est ça qu'on dit. On ne dit pas que les mairies, elles ont une baguette magique, c'est par les urnes que ça passera. Nous, on pense le contraire. On pense que ce n'est pas par les urnes. Que les urnes, ça sert à pousser, pas seulement un coup de gueule et un coup de colère, parce que c'est un petit peu plus construit et conscient de ça. Et ceux qui votent pour nous, ils sont conscients que ce combat, il sera nécessaire. Mais vraiment, agiter le drapeau à cette occasion.
Vous seriez une sorte de cheval de Troie, en quelque sorte, qui serait dans le système et les autres qui seraient à l'extérieur pour se battre et pour le renverser, en quelque sorte.
Alors, sauf
Je vois ça de façon très manichéenne.
Non, hein. Non, mais sauf que le cheval de Troie, il y a un côté un peu caché, planqué. Nous, le drapeau rouge, on le déploie. On est révolutionnaire, on l'affiche strictement, hein, j'ai encore un peu de colle sur les doigts là, parce que c'est sur nos affiches, voilà, c'est d'actualité. Nous, c'est pas planqué, c'est pas de l'entrisme, ou c'est pas je vais être gentil, je vais me faire élire, et alors de l'intérieur, je ferai des miracles. Non, ça, non, c'est pas vrai. Les travailleurs, ils ont pas besoin de cheval de Troie. Ils sont la forteresse quelque part, ils sont tout dans la société. Simplement, pour l'instant, ils mènent des combats. Ils sont conscients que c'est le grand patronat qui fait régner son ordre. Et donc, cette conscience des travailleurs, c'est à elle qu'on fait appel en se présentant aux élections. En disant, si vous êtes conscient de ça, dites-le. C'est encore une fois pas le petit pourcentage, hein, je suis hyper lucide là-dessus, hein, qu'on va faire aux élections, mais au moins ça nous permettra de nous compter. Voilà. Et puis de dire aussi quelque chose par le bulletin de vote. Ça fait combien d'années que on, alors quand je dis on, c'est hein, très général, hein, qu'on nous dit qu'il faut voter utile. Ah non, ne vote pas pour ce que tu crois, ne vote pas pour ce que tu aimes, vote utile. Ou alors qu'on nous fait voter par défaut. Ah bah faut voter machin contre, pour pas voter contre l'autre. C'est quoi ça ? Nous, on pense que faut voter pour son camp, faut voter avec cœur, avec ses tripes, mais aussi son cerveau et sa place dans la société. Voilà, nous à Lutte Ouvrière, on pense qu'il y a deux camps. Voilà, les exploiteurs, les exploités. Le prolétariat et la bourgeoisie, pour employer des termes précis. Eh ben, quand on est un travailleur, quand on s'estime, quand on se sent de ce camp du monde du travail, même quand on est quelqu'un qui est handicapé et qui vit avec une allocation adulte handicapé, hein, on se sent du monde du travail. Parce qu'on sait bien qu'on n'est pas du côté de ceux du CAC 40. Eh ben, quand on se sent du camp du monde du travail, il faut l'exprimer. Faut voter lutte ouvrière et puis aussi, faut partager ces idées-là autour de soi en disant qu'il faut être conscient des luttes à mener.
Mélissa ?
Oui, vous parlez beaucoup du système capitaliste que vous remettez en cause, vous qui militez tous les jours, comme vous dites, et j'imagine que vous êtes allé à la rencontre des personnes, des citoyens, pour demander leur avis, leurs opinions. Est-ce que vous sentez que dans la population actuelle, chez les Bordelais, il y a une remise en cause justement de ce système ? Et est-ce que les gens qui adhèrent ou pas à vos idées ont envie que les travailleurs retrouvent une place disons, avec plus de statut dans la société. Est-ce qu'ils ont envie de ça ?
Alors oui, alors vous avez raison. Déjà pour construire la liste des 65 candidats et candidates lutte ouvrière, eh bien on a fait plein de rencontres. Alors la plupart du temps dans les quartiers populaires, hein, au Grand Parc, aux Aubiers, à Bacalan. Et puis ben notre liste, de toute façon c'est un souhait, hein, c'est un vœu, vraiment c'est un choix politique. Elle est constituée uniquement de candidats du monde du travail. Donc ces personnes-là qui sont femmes de ménage, ouvriers du bâtiment, retraités, auxiliaires de vie, profs, postiers, j'en passe, j'en oublie, eh bien, ils sont conscients de cela. Et ils ont envie, justement. Et s'ils ont dit « oui, je mets mon nom sur une liste », alors que ça rapporte rien, hein, sur une liste lutte ouvrière, hein, d'accord ? C'est qu'ils sont justement conscients qu'il y a ce drapeau à lever, ce combat à mener. Et puis, je dirais même, alors, c'est cette adhésion-là, on la trouve aussi parmi ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas être candidats avec nous. Parce que je rappelle qu'en France, il y a 3 millions de travailleurs immigrés qui sont privés du droit de vote. Et donc, encore pire, du droit d'être candidat. Seuls les ressortissants de l'Union européenne, donc c'est très 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 restreint quand même, ont le droit d'être candidats, et encore uniquement aux élections européennes ou aux élections municipales. On en a d'ailleurs, nous, 4 sur notre liste, hein, qui sont espagnols, italiens, portugais. Mais tous ces gens qui sont aujourd'hui, qu'on rencontre hein, dans les quartiers, qui sont de plein d'origines différentes, ils nous disent mais il faut faire ça, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je le vois sur mon chantier, je le vois sur mon usine, je le vois avec mes camarades, etc. etc. Eux, vous voyez, aujourd'hui, ils sont privés de la parole électorale, en tout cas. Et donc, eux, ils sont super conscients, en fait, que c'est vraiment dans les luttes qu'ils pourront s'exprimer, ils pourront batailler. Je prends un exemple et je salue. Le monde du travail et les travailleurs algériens, par exemple, qui mènent un combat depuis plus d'un an, eux, ils ont compris que c'était pas dans les urnes avec un cinquième mandat de Bouteflika, mais que c'était dans la rue, et puis de façon régulière, et puis en s'organisant, qu'ils auraient une chance, peut-être, de vraiment changer leur sort. Donc, à Bordeaux, est-ce qu'en tractant, est-ce qu'en discutant, on sent une fièvre soudaine révolutionnaire ? Je ne vais pas non plus vous dire oui.
Mais on a quand même vu le mouvement des Gilets jaunes.
Exactement.
Qui sont surtout des
travailleurs. Voilà, merci, c'est ce que j'allais dire. Parce que voilà, ça dépasse Bordeaux, en fait, ce sentiment qu'on a. On a le mouvement des Gilets jaunes qui a vraiment poussé et qui a montré une chose super intéressante. Les Gilets jaunes, ils ont prouvé que quand on est en rage, quand on a la colère, quand on veut protester, bah finalement, on a besoin de personne. On n'a pas besoin de représentants, élus, pas élus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont bien insisté là-dessus, hein, qu'ils ne voulaient pas de porte-parole labellisée. Non. Ils n'ont attendu après personne pour s'organiser. C'est ça le maître mot, s'organiser. Et puis, plus récemment, on a vu quand même des grèves massives, et ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu d'aussi massives, avec le mouvement contre la réforme des retraites, avec les cheminots, avec les traminots, qui ont fait grève pendant plus d'un mois. Donc, ces mouvements-là, et ces grèves qui ont été spectaculaires, ces manifs qui faisaient vraiment plaisir à voir dans Bordeaux, qui sont toniques, ça continue quand même. Il y a encore un rassemblement auquel j'ai été hier avec les camarades de lutte ouvrière, et puis je peux vous dire qu'on n'y était pas tout seul, c'était mardi midi devant la préfecture, bah, il y a encore tout ça. Et puis surtout, bah, ceux qu'on rencontre du monde du travail, ils nous répètent ça, qu'ils sont conscients que ce n'est pas les élections qui changeront quoi que ce soit. Eux, ça fait des décennies qu'ils entendent ça. C'est aussi une manière, c'était une tentative d'étouffer aussi, hein, répéter pendant des années, voter utile, voter machin, voter contre, et puis surtout, vote bien, et puis après on s'occupe de tout. Nous, on se pose vraiment en faux vis-à-vis de ces idées-là.
Alors Fanny Candal, la mairie de Bordeaux, c'est tout un système pas forcément simple à comprendre. Il y a plein de choses qui sont imbriquées les unes dans les autres, dans la vie institutionnelle. Peut-être que Hugo, t'as enquêté dessus, tu vas pouvoir un peu nous éclairer dessus. Puis après, on verra vos propres visions de comment institutionnaliser la mairie de Bordeaux.
Ah oui, c'est-à-dire que justement, comme vous l'avez dit, les mairies fonctionne sur un modèle représentatif, et ça date de même avant le concept de république. Donc c'est un modèle qui est extrêmement ancré. Le modèle représentatif, c'est quoi ? C'est-à-dire que dans une mairie, généralement, en fait, il y a des portefeuilles, il y a des adjoints, c'est relativement assez compliqué. Je pense pas qu'en une minute ce soit si intéressant de le dire, surtout que vous avez clairement expliqué le fait d'être contre. Mais justement, l'institutionnel, c'est quelque chose qui est effectivement nécessaire à une organisation et une institution qui partirait en fait du bas vers le haut, donc qui partirait tout simplement des gens du monde du travail, elle demande à être pensée. Du coup, pas en tant que personne, mais en tant que représentante de lutte ouvrière, si vous voulez élaborer sur le modèle institutionnel que prévoit Lutte Ouvrière, n'hésitez pas, allez-y, vous avez la parole.
Bah, je vais même pas être originale, je vais revenir encore dans le passé. La Commune de Paris, voilà, 1871, alors on pourrait faire topo pendant des heures là-dessus parce que c'est un moment passionnant pour l'histoire du monde ouvrier et pour justement l'histoire de la représentativité. Alors avec toutes les précautions que j'ai prises tout à l'heure, disant que les travailleurs immigrés étaient écartés du droit de vote, que voilà. La Commune de Paris, c'est, on s'embarrasse pas de ça. Il y avait des étrangers dans la Commune de Paris. Les travailleurs, ils se sont organisés dans des institutions, mais des institutions ouvrières en fait. Marx, il a dit, c'est la forme enfin trouvée de gouvernement ouvrier. Ils ont inventé littéralement, et ça en très très peu de temps, avec sous le siège de la Prusse, enfin je ne vais pas faire un cours d'histoire, hein, donc avec des vraies contraintes physiques et guerrières importantes, quotidiennes, ils ont organisé leur propre gouvernement, leurs propres institutions. Ça voulait dire, à l'époque Paris c'était 2 millions d'habitants, bah, ils ont réussi à les nourrir. Ils ont réussi à mettre en place quelque chose que les gouvernements bourgeois et monarchiques n'avaient jamais pris le temps de faire, c'est-à-dire de dire bah, on fait des écoles pour les enfants, pour les garçons et pour les filles, quel que soit leur revenu. Libérer du joug de l'Église et du clergé, de l'enseignement clérical. Voilà. Et tout ça en s'organisant dans ce qu'ils ont appelé des comités d'arrondissement. C'était tout nouveau. Voilà. Ils ont dit ben, non, nous, on ne repart pas dans un gouvernement bourgeois. Voilà, là vraiment on fait table rase de ces institutions-là et on fait les nôtres, on construit les nôtres. Et donc c'est un petit peu, alors je vais pas dire qu'on va faire la Commune de Bordeaux, mais
je vous coupe parce qu'à Bordeaux il y a quand même des choses qui ont déjà été construites. La ville de Bordeaux est organisée par quartier, ça pourrait être plutôt pas mal que l'information puisse remonter des quartiers. Après il y a l'organisation avec Bordeaux Métropole, on sait pas si quel est votre avis là-dessus, mais il y a déjà une organisation qui existe qui permet de faire remonter la parole et de permettre aux gens de s'organiser eux-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'il y a des choses à réformer?
Ben, non, mais l'organisation par quartier, elle est historique, elle existe dans plein de villes, elle est naturelle même. Elle répond à, ben, les gens, ils parlent, ils réagissent là où ils habitent, c'est normal. Nous, ce qu'on dit, c'est que pourquoi ça serait toujours au quartier des riches de un petit peu...
D'imposer
ou eux, d'accéder à la parole. Je prends un exemple, mais quotidien, très basique, mais qui montre ça. À Bordeaux, on a aujourd'hui deux quartiers, Codéran et Saint-Augustin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Bordeaux, hein, sur l'université, c'est deux quartiers riches. Hein, voilà, on va le dire. Alors, évidemment, il y a des exceptions, comme partout, mais c'est vraiment des quartiers où les gens ils ont un peu plus d'argent hein, que les autres. Où bah, le stationnement, par exemple, ouais, c'est une préoccupation ultra matérielle et quotidienne, le stationnement, il demeure gratuit. Voilà. Pourquoi ? Parce que les habitants de ces quartiers-là, ils ont mené leur petit combat avec leurs armes hein, auprès du conseil municipal et de ses représentants. Quand je dis combat, je pèse mes mots, y compris au sens littéral. Hein. Et donc le stationnement est demeuré gratuit. En revanche, prenons le quartier du Grand Parc, où nous on est très souvent. Et bien là, le stationnement, donc le Grand Parc c'est une cité populaire avec des tours, des bars, des HLM, voilà, avec énormément d'habitants et... des problèmes de stationnement, surtout, qui deviennent payants, mais pour les habitants. Ça veut dire que ces habitants de logements sociaux, ils se retrouvent obligés de payer 10 euros, 15 euros par mois, ce qui est lourd dans le budget d'un ménage, dans le budget de retraités, dans le budget de travailleurs, de chômeurs qui comptent, quoi. Hein. Ils se retrouvent obligés de payer juste pour avoir le droit de se garer en bas de chez eux. Et la mairie a aidé à financer la construction d'un parking avec plein d'étages, qui est sous régie par cube, dans le quartier du Grand Parc, en plein milieu, entre le quartier du Grand Parc et finalement la clinique Bordeaux Nord. Comment croyez-vous que ce parking est financé ? Ben, il est privé, il est payant, et puis alors lourdement. J'aime autant vous dire, moi j'y suis tous les jours au Grand Parc, le parking il est vide. Là, il doit y avoir 14 voitures dedans, parce qu'il est cher. Les habitants ne peuvent pas... Sur plusieurs centaines, là j'ai plus les chiffres, mais 350 ou 400 places, quelque chose comme ça. Il est trop cher pour les habitants du quartier du Grand Parc, il est trop cher pour les travailleurs et les travailleuses de la clinique Bordeaux Nord, aides-soignantes, infirmières, qui ne peuvent pas se payer ça en plus. Donc pourquoi, dans ce quartier-là, hein, on parlait de répartition de la ville en quartier, pourquoi là, ben, les habitants, ils n'ont pas voix au chapitre ? Pourtant, croyez-moi qu'il y a eu des réunions de quartier pour dire que les habitants, ils étaient contre le fait d'avoir à payer encore quelque chose. Ce n'est pas à eux de payer. Vous voyez ?
C'est un exemple. Ouais, c'est un exemple qui est
bah ouais, une commune ouvrière, elle dirait bah ouais, on construit un parking avec plein d'étages, super, 400 places, c'est super, mais c'est gratuit pour les habitants, c'est gratuit pour les travailleurs qui en ont besoin. Vous voyez la différence ?
Alors avant d'aborder la thématique suivante, je vous propose d'écouter ce micro-trottoir réalisé par Eléa avec d'autres étudiants du campus pour essayer d'être le plus représentatif possible. Et puis je précise également que Nicolas s'occupe du compte sur Facebook. Si vous avez des questions à poser, elles le sont. Et puis il reviendra peut-être en fin d'émission pour dire s'il y a des questions qui ont été posées par les internautes, les auditeurs internautes.
En tant que demandeur d'emploi, je pense que en fait, les zones de gratuité pour les transports en commun donc, devraient être élargies aux autres communes, par exemple Léognan. Voilà.
Je pense qu'on a vraiment besoin de développer la politique de transport sur Bordeaux, parce qu'en fait on a des trams et des bus qui sont vraiment bondés sur toutes les heures de pointe, et on se retrouve à vraiment être en difficulté pour les utiliser. C'est une situation qui n'est pas pérenne à long terme, parce que la ville va grandir, et même si on a une extension du tram D, on a besoin d'améliorer un peu plus le réseau de trams.
Je pense qu'il y a un problème de rapport entre le maire, son conseil municipal et les citoyens. Pourquoi ? Parce que on a un peu l'impression de temps en temps d'être confronté uniquement aux élus au moment de l'élection municipale. Et je pense qu'il y a vraiment un intérêt à créer plus d'espaces de discussion pendant l'exercice du mandat pour faciliter les choses.
Bordeaux, pour les municipales, je pense qu'il y a un sujet intéressant, c'est le logement. Le maire a un pouvoir en matière de logement, donc déjà de plafonner les loyers pour les étudiants et les jeunes actifs à Bordeaux. Et après, toute la question des squats là, qui ont été évacués par la préfète, ce serait intéressant d'avoir une réponse municipale pour loger les demandeurs d'asile, les migrants et les mineurs isolés. Il y a eu un problème à Bordeaux, qui ne sont pas pris en charge par les pouvoirs publics et qui restent dehors dans la rue tout seuls. À galérer, quoi. Donc ça pose des problèmes pour eux et pour les habitants. Et puis après, plus généralement, c'est juste redonner du sens un peu aux habitants dans la ville, ou peut-être limiter les Airbnb ou les locations privées pour que les étudiants puissent se loger et que les Bordelais puissent se loger, quoi.
À Bordeaux, en ce moment, on assiste à plusieurs projets de réaménagement de l'espace public qui, en réalité, tendent à enlever un peu plus de possibilités pour le citoyen d'occuper l'espace public, notamment avec les bancs, les parcs, etc. Donc, plus de parcs, de bancs, de mobilier urbain qui permettent à la population dans tous les quartiers, pas seulement dans certains quartiers, de s'approprier la ville et donc de s'intégrer dans la vie de la municipalité. Ça serait bien que le nouveau maire s'empare de ces questions pour redonner l'espace public aux citoyens et faire revivre la ville.
Voilà, c'est les attentes des Bordelais sur les grands chantiers de la prochaine mandature. Salut Léa, qu'est-ce que je te sers ?
Un petit cappuccino, s'il te plaît.
Un petit cappuccino, ça j'ai. je vais te le trouver.
J'ai failli dire cappuccino noisette, mais bon, j'ai eu pitié.
Alors, vous avez vu prendre plein de notes, hein, Fanny Coindal, donc je pense que vous aurez l'occasion de revenir sur ce micro-trottoir. Et je voulais pas couper Eléa, on s'est fait des signes, on s'est dit ah, je la laisse répondre, non, non, et elle m'a dit non, c'est moi, donc vas-y à toi Eléa.
Mais moi je voulais surtout revenir sur la question du logement, puisque comme le souligne cette étudiante en droit qu'on a entendu, une pénurie de logements sans précédent est à déplorer à Bordeaux. Les chiffres donnent 7 personnes en recherche de logement pour un logement, avec une hausse de 11% des prix du loyer en 2019. Vous parlez, je crois, de réquisitionner les logements vacants. Comment comptez-vous vous y prendre ?
Alors, voilà, le problème du logement, on le citait tout à l'heure, il est crucial, il est quotidien, hein. Plein d'étudiants et de familles mal logées, voire pas logées du tout, hein, ou logées dans des... Enfin, mal logées parce que c'est pas isolé, parce qu'on s'entasse, etc., etc. À Bordeaux, il y a au moins 10 000 logements vacants, sans parler des bureaux, etc., etc. 10 000 logements vacants. Alors, j'entendais un étudiant qui disait que ferait le nouveau maire ? Le nouveau maire tout seul, rien du tout. Voilà. Si moi j'étais, voilà, rien du tout.
De toute façon, il est important de préciser, parce que c'est vrai que ça se sait pas forcément. On a l'impression qu'on vote pour juste quelqu'un. Les municipales, on vote pour une liste complète, donc 65 colistiers, et ce sont ces 65 colistiers qui décident ensemble d'élire le maire, et puis après de prendre des décisions ensemble, hein, donc. C'est une petite précision qui paraît nécessaire.
C'est le conseil municipal. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un maire, ni même un conseil municipal, y compris si l'intégralité du conseil municipal était d'accord, qui pourrait avoir le pouvoir là-dessus. Il pourrait servir, à mon avis, hein, de levier pour que, justement, les habitants des quartiers qui savent qu'est-ce qui est vide... Le palier, Madame Micheline, elle est partie. Je sais que là, il n'y a plus personne. Les gens, ils le savent, hein, moi, enfin, franchement.
Bien sûr.
Donc ça serait confier ça aux habitants, ça serait leur recherche, leur travail à eux, que de recenser ces logements vides, leur état également, c'est important, travaux à faire, isolation, enfin bref, et également de les réquisitionner. Mais vous voyez bien qu'une mairie aujourd'hui, si elle décide de s'attaquer à un bailleur privé et de dire « je réquisitionne », le pouvoir du maire, qui a pourtant été élu, le pouvoir du conseil municipal qui a pourtant été élu, il sera foulé aux pieds par l'autorité du préfet. Le préfet ou la préfète de la Gironde,
Fabienne Boutiot,
qui n'a pas, au hasard, hein, de façon, dans tous les départements c'est pareil, hein, n'a pas été élu. Et pourtant, c'est l'autorité préfectorale qui peut vraiment mais traiter les décisions d'un conseil municipal comme un paillasson, quoi. Voilà. Je donne un exemple qui est en dehors du problème du logement, mais qui est très illustratif, donc permettez-le-moi. L'exemple du glyphosate. Les maires courageux des petites communes qui, il y a quelques mois, ont dit « Moi, je veux interdire l'épandage de glyphosate à proximité des écoles, des habitations de ma commune. » Ces maires-là, ils ont pris leur décision avec les conseils municipaux. Ce sont des décisions qui ont été votées. Vous voyez là, la démocratie, comment elle n'existe pas, en fait. Qu'ont fait les préfets? Ils ont dit « Mais ils ont déchiré littéralement les arrêtés municipaux. » Et voilà. Et donc, l'épandage, il a continué comme avant. Donc, il faut être hyper conscient de ça. C'est pour ça que, je répète, une municipalité, fût-elle ouvrière, seule, ne pourrait rien. Ça s'appuierait sur les combats des habitants des quartiers. Parce que vous savez, quand dans un quartier, et ça, je reprends mon exemple de la commune de Paris, parce qu'en fait, ils n'ont appliqué ces choses-là. Quand il y avait des procédures d'expulsion locative, eh bien, c'était pas seulement les délégués élus, les communards hein, de Paris, qui s'opposaient à ces expulsions. Ils donnaient le mot, ils communiquaient, ils utilisaient, vous voyez, les moyens d'une commune ouvrière, et c'était des dizaines, des centaines d'habitants de Paris qui allaient s'opposer aux huissiers, aux bourgeois qui voulaient récupérer leur logement pour fiche dehors des familles. Ça serait tout à fait à notre possibilité. Sous la commune de Paris, il n'y avait pas Twitter et autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, j'insiste, c'est pas une mairie toute seule qui peut faire ça. C'est vraiment les habitants, les travailleurs qui peuvent s'organiser. Et la mairie, elle servirait de point d'appui par ses moyens de communication, par ses employés, ses ouvriers municipaux.
Par ses autorisations. Par
ses autorisations. Et puis aussi tout cela, ça permettrait donc, alors là je reviens au gros souci du logement, de loger tout le monde. Moi, vraiment, on en est convaincu, c'est mathématique. Et puis on peut s'appuyer sur les chiffres d'organisations comme la Fondation Abbé Pierre, etc., etc. De loger tout le monde, et quand je dis tout le monde, y compris les migrants. Parce que ça, merci pour le micro-trottoir de l'avoir mis. C'est hyper important de dire que, voilà, il n'y a pas que les Bordelais, là, qui cherchent des logements. Le problème, et puis l'actualité, là, en ce moment, hein, cette semaine, elle nous le rappelle de façon scandaleuse, l'accueil des migrants, il est nécessaire. Nous, à Lutte ouvrière, on est pour la liberté d'installation et de circulation, et donc, évidemment, d'accueil correct des migrants. Et il y a assez pour loger tout le monde, il y a assez pour nourrir tout le monde, il y a assez pour éduquer tout le monde. Simplement, c'est encore une fois une histoire de choix politique, mais de pression aussi sociale. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à votre question sur le logement.
Oui, ben justement, vous parlez de la gestion des squats. En Gironde, on en compte près de 150, dans lesquels vivent 1500 personnes, dont 90% à Bordeaux, selon la préfecture. Et justement, les structures d'accueil manquent pour accueillir ces personnes. Donc au profil très varié, il n'y a pas que des migrants, il y a aussi des étudiants, des demandeurs d'emploi, des demandeurs d'asile, des mineurs. Qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place pour venir en aide à ces personnes, concrètement? Des centres d'accueil
Il y a largement assez de structures aujourd'hui qui sont vides, qui sont inoccupées ou alors qui sont non entretenues. Ça veut dire que des fois, on entend un préfet ou une préfète qui dit « Ah ben non, là c'est inhumain, les conditions dans lesquelles... » Ouais, mais enfin, c'est quand même mieux que rien. Et puis pourquoi on n'engage pas de moyens? Ces gens-là, ils sont là depuis parfois des années. Moi, j'ai habité près du foyer L'Aidé à Nansouty. Tous les jours, entre 18h et 19h, il y avait la queue dehors. Ça veut dire que ce foyer, et c'était donc, on le savait, du 1er janvier au 31 décembre, il y avait manque de place. Pourquoi ça dure des années? Pourquoi ça perdure encore aujourd'hui? On a l'un de nos colistiers qui y travaille. Bah parce qu'il n'y a pas de moyens. Vous voyez, une municipalité ouvrière, ça serait une municipalité qui consacrerait non pas une partie de son enveloppe budgétaire à, construire le grand stade, peut-être pas, hein, voilà, mais au contraire, à faire ce qu'il faut pour que tout le monde soit dignement logé. Encore une fois, attention, ça serait pas... Il y a aussi une question qui m'a bien plu là-dessus, c'est le contrôle des élus, en fait. Parce que, voilà, il y avait quelqu'un qui disait dans votre micro-trottoir, là, aujourd'hui, il y a le maire, le conseil municipal et puis les citoyens. Pardon,
il
n'y
a plus de communication.
Ben non, puis il n'y a pas de décision et puis il n'y a pas de remontée. Là, une fois que les gens sont élus, ça descend, mais ça ne remonte jamais. Ben, vous voyez, sous la commune de Paris, sous le siège, dans des difficultés énormes, eh bien, les élus, les délégués, ils étaient placés sous le contrôle de la population, révocables à tout moment, rémunérés avec le salaire moyen d'un ouvrier, comme ça on était sûr que ces élus, ben, ils ne venaient pas là pour la soupe, pour la gamelle. Je dis même pas suivez mon regard parce que sinon c'est du strabisme parce que voilà non mais il n'y a pas qu'à Bordeaux, vous voyez ce que je veux dire, mais ça je rigole avec ça, mais en fait c'est le fondement justement de ce qu'on pense quand on parle de pouvoir aux travailleurs. Quand je disais tout à l'heure que les travailleurs ils doivent postuler au pouvoir, ils en ont la capacité, ils gèrent bien mieux avec les galères que ça représente, hein, pardon, mais leur budget, leur ménage, les gamins qu'il faut quand même éduquer, nourrir, vêtir, dans des difficultés parfois insurmontables, et ils y arrivent quand même. Alors nous, on pense que organiser, alors au sein d'une municipalité ou même plus large, ils seraient capables de faire bien mieux que cette société aux ordres des capitalistes. Mais pour ça, voilà, le monde du travail, il faut qu'il ait conscience qu'il faudra se battre, qu'il faudra lutter, qu'il faudra faire la grève, qu'il faudra manifester. C'est pas les élections toutes seules qui marcheront, ça c'est clair.
Sur la question des logements, il y a un point important aussi, c'est le prix des loyers qui est assez exorbitant pour des étudiants qui quelquefois ne peuvent pas se loger. C'est pour ça qu'ils squattent, qu'ils vont de chambre en chambre, parce qu'on leur propose des solutions, il faut 3 garants ou il faut toujours plus pour pouvoir se loger. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous comptez faire si vous êtes élu maire à ce sujet?
Vous parliez tout à l'heure de la communauté urbaine de Bordeaux. Une municipalité ouvrière, elle pèserait pour qu'il y ait justement assez de construction ou de rénovation, de logements vides, pour qu'il y ait assez de logements pour les étudiants. Mais encore une fois,
En termes de prix, même s'il y en a assez, est-ce que, par exemple, les logements du Crous, il y en a, mais ils sont chers. Donc il y en a qui ne peuvent pas accéder à ces logements-là.
Mais évidemment qu'il y a une pression immobilière. Évidemment que les colocs à 5, c'est pas que parce qu'on aime les gens, mais que faut s'en sortir. On le sait, on le vit, quoi. Donc au niveau des prix, c'est un petit peu la même chose. Il y a une spéculation immobilière quand même. C'est pour ça que les loyers sont élevés. Et là, vous voyez, on touche du doigt un point. C'est pas la mairie de Bordeaux qui pourrait décider du loyer des logements étudiants. Moi, je ne vais pas dire ça, ça serait un gros mensonge, ça serait me moquer de tout le monde. Ça n'est pas vrai. Plafonner les loyers, mais même plafonner les loyers. Vous voyez, on s'attaque à un truc qui est la propriété privée et qui dépasse largement l'échelle d'une commune, l'échelle d'une ville. Donc, à un moment, il faudra que les étudiants, les travailleurs, ils engagent des bagarres pour s'attaquer à ça. Parce que c'est quand même une honte, en fait, un scandale que certains soient propriétaires, aient hérité, parce que ce sont des héritages, c'est du patrimoine, là on touche le cœur, le portefeuille, là, c'est un héritage. Il y a des propriétaires qui ont des dizaines et des dizaines de logements. Voilà. Est-ce que c'est normal que, d'une part, il y ait des étudiants, des travailleurs qui n'arrivent à se loger que très difficilement parce que ces propriétaires spéculent littéralement sur les prix et sur les loyers? Est-ce que ça, c'est normal? Non, on pense que la réquisition, elle prend là tout son sens. Mais pour ça, vous voyez, la réquisition, c'est illégal aujourd'hui. La loi faite par la bourgeoisie et pour la bourgeoisie, faudra la contester. Ça, faut être hyper lucide là-dessus.
De tout ce que vous dites depuis le début de cette émission, il y a souvent le mot « lutte » qui revient. Et ça m'amène à cette question. Pourquoi ne pas faire front commun avec Bordeaux en lutte, une autre liste justement qui prône cette lutte, cette réquisition, ce combat?
Bordeaux, il n'y a pas que les mots là. Les mots, ils sont hyper importants. Nous, on s'appelle lutte ouvrière. Et donc, on dit bien que la force, le levier d'action, il est dans le monde du travail. Voilà, c'est pas lutte bourgeoise, c'est pas lutte des citoyens, parce que voilà, les citoyens, tout le monde l'est. Carlos Ghosn, c'est un citoyen. c'est vrai. Nous, on appelle un chat un chat. Un exploité, c'est un exploité. Un prolétaire, c'est un prolétaire. Un ouvrier, c'est un ouvrier. Et quand on dit ouvrier, vous savez, les gens qui sont employés, qui sont profs, ils s'y retrouvent. Ils savent qu'ils sont dans le monde du travail. Alors, Bordeaux en lutte, Philippe Poutou, mais c'est bien. Moi, je suis pour que toutes les expressions puissent se faire dans les élections. Très bien. Mais nous, on ne dit pas la même chose. L'alliance de Philippe Poutou avec la France insoumise, ça fait que justement, les luttes, là, elles sont placées sur un terrain électoral. Les militants France Insoumise, ils sont réformistes, ils ne sont pas révolutionnaires. Les militants France Insoumise ne prétendent pas que c'est dans les luttes, les grèves et les manifs qu'on y arrivera. Dois-je citer Jean-Luc Mélenchon, qui nous disait, qui prétendait il y a quelques mois de cela, que voter pour lui, ça économiserait, je cite approximativement, mais pas tant que ça, ça économiserait des kilomètres de manifs. On a vu ce que ça a donné pour la loi travail. On voit ce que ça donne pour la réforme des retraites. Non, c'est pas en votant bien qu'on s'en sortira. Et donc ça, nous, on veut pas raconter des carabistouilles à ceux qui nous écoutent.
C'est pas le même combat, tout simplement.
C'est pas le même mode d'action. Nous, on pense que c'est la révolution, les luttes sociales, comme en 1936, comme en 68, comme là, dans le mouvement qui permet... Comme en 95, même, Alors là, vous êtes jeune, donc vous n'avez peut-être pas connu ça, mais en tout cas, c'est des mouvements sociaux qui permettent de changer les choses, pas les urnes. Et donc nous, c'est pour ça qu'on n'est pas ensemble, là, dans ces élections.
Tout simplement.
Évidemment.
Alors, si je peux me permettre juste une petite phrase, il me semblait que le Front Populaire était réformiste.
Ah, le gouvernement de Front Populaire, lui, était réformiste, tout à fait. 1936, rapidement, les élections législatives, élu à une écrasante majorité le Front Populaire, donc une alliance de partis de gauche, pour le dire vite, hein, PS, PC, MRG, ok. Et 8 jours plus tard, c'est la grève générale. Bizarre, non ? Pourquoi les travailleurs, les travailleuses de France, alors qu'ils viennent d'élire un gouvernement de Front Populaire, se mettent en 1936 en grève générale ? Plus de 10 millions de travailleurs en grève et, fait notable, on parlait de propriété, qui occupent les usines, qui squattent les usines. Occuper une usine, ça veut dire « elle est à moi l'usine, elle n'est plus au patron ». Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la conscience que ce gouvernement de Front Populaire, cette chambre, hein, cette assemblée, elle n'allait pas leur épargner la marche à la guerre. En 1936, les travailleurs, il y avait la remilitarisation, il y avait Hitler au pouvoir en Allemagne depuis plus de 3 ans, et ils voyaient qu'ils allaient à la catastrophe. Et comme, justement, hyper conscient, vous voyez, la classe ouvrière, hyper consciente que c'était certainement pas des élus, des députés, fussent-ils de luxe,
c'est par la qui allaient
leur épargner
réussi.
Ça, c'est par la grève générale qu'ils ont essayé. Et qu'ils ont... Donc, vous voyez, les travailleurs, ils n'étaient pas réformistes, eux. Et ils ont... Le gouvernement l'était, mais pas eux.
Et ils ont obtenu certaines évolutions.
Alors,
sociales,
vous savez,
notamment.
Ils se sont... Oh,
on ne va pas refaire de l'histoire. on va passer sur le volet transport et écologique, puisque dans le micro-trottoir, ça ressort énormément sur les trams qui sont bondées, sur une vraie politique de transport à Bordeaux. On sent que là, il y a des besoins d'amélioration. Donc, quelle a été votre impression en écoutant ce micro-trottoir et quelles sont vos propositions par la suite?
Eh ben, j'ai noté 2 points sur les transports. Hein. À la fois, une demande, un besoin de gratuité, parce qu'effectivement, ça coûte cher, même quand il y a des abonnements, etc., ça coûte cher. Et puis également, une demande d'amélioration du réseau. On connaît ça, hein, les bus et les trams vont desserrer comme des sardines. Et puis, j'ajouterais même une amélioration du réseau aussi au point de vue des horaires. Voilà, sur notre liste, hein, y a des travailleurs qui embauchent à 4h du matin, parce que femme de ménage dans une usine ou dans des bureaux, voilà. 4h du mat, ben, désolé.
Il y a un tram toutes les 15 minutes.
Ma camarade. Ah non, il n'y a pas de tram.
Il n'y en a pas.
Et puis l'usine dans laquelle elle se rend, il n'y a pas de tram non plus. Hein. Donc voilà, c'est un scooter à 4h du mat. Voilà. Bon, bref. Donc il y a un besoin à la fois de gratuité et d'extension du réseau. Alors là, c'est la grande mode, hein, vous avez vu, c'est l'écologie, tout le monde fait du vert, pas qu'à Bordeaux, hein, c'est le green partout, le greenwashing pour... voilà. Nous, on dit oui, il faut la gratuité des transports et il faut étendre les transports collectifs. Déjà, c'est un besoin de la population. Et puis, évidemment, bah, sur le plan écologique et de l'environnement, ça fait vraiment du bien.
Alors, vos contradicteurs vont vous dire, mais comment on va payer ça ?
Eh bien, merci de me poser la question, parce que justement, nous, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, et j'écoute attentivement les autres candidats, on est les seuls à le dire, qui financerait cette gratuité ? Parce que les chauffeurs de bus, les chauffeurs de tram, les agents qui sont responsables de la maintenance des installations, de leur surveillance, bah, faut les payer, hein, bien sûr. Et puis, mieux qu'aujourd'hui, si possible. Voilà. Et puis, ces installations eux-mêmes, hein, les moyens matériels, les bus, les trams, bon, bah, bref, faut de l'argent pour ça. Ça ne pousse pas sur les arbres. Nous, on dit que ça, c'est pas aux contribuables de payer ça. Parce que si c'est pour faire les transports collectifs gratuits, et qu'en fait, les taxes augmentent et que les impôts augmentent, bah, ce qu'on va offrir dans une poche d'un travailleur, on va lui reprendre dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, on dit que c'est aux capitalistes de payer pour les transports collectifs. Et ça, je crois que nous sommes les seuls à le dire. Comment cela ? Ben oui. Les travailleurs qui vont embaucher le matin, qui empruntent ces transports collectifs, les transports collectifs, ils rendent service aux grands patrons, aux responsables, à ces propriétaires d'entreprises. Leur main d'œuvre, elle leur est amenée gratuitement. Ils ne payent rien. Ben moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça honteux. Donc, je prétends que c'est aux grands patrons de payer pour cela. Deuxième exemple, les gens qui vont faire leurs courses dans les immenses centres commerciaux, ou même les petits commerces, d'ailleurs, hein, mais surtout les grandes chaînes de magasins. Pareil, les gens qui empruntent les trams, les bus pour s'y rendre. Qui paye ? Aujourd'hui, c'est le contribuable. Ça serait normal que ça soit Auchan, la famille Muliez, ou alors les familles Carrefour, Leclerc, etc. Et j'en oublie, qui payent pour cela.
Le problème, c'est que ce n'est pas à l'échelle locale,
exactement,
c'est pas à l'échelle municipale qu'on peut résoudre cette question-là.
Tout à fait. Et du coup, c'est vraiment... C'est pour ça que ce que je dis, c'est que dans ces élections municipales, nous, on va donner des idées, mais des idées qui pourraient être... comment dire, que la population entière pourrait s'approprier, vous voyez ? Parce que ça, ce problème-là des transports qu'on doit rendre gratuits, mais qu'on doit faire payer aux capitalistes... Ce problème-là, il existe partout, en fait. À Libourne, il y a les transports gratuits pour les habitants. Bon, ben voilà, ça existe, ça tourne, ça marche plutôt pas mal. Mais c'est les contribuables qui payent. Ben, on pense qu'on peut aller vraiment au-delà, vraiment plus loin.
Sur la question de, donc vous avez dit étendre le réseau de transport en termes d'horaire et en termes de disposition, vous avez des idées précises de lignes ou d'axes à améliorer?
Là, j'ai pas le plan en tête du tout, pour être très honnête. Voilà, je pense à ma camarade qui travaille dans, voilà, qui est femme de ménage dans une usine sur Mérignac. Bah, par exemple, voilà, il y a pas de transport qui l'amène là-bas. Bah, c'est un exemple, mais encore une fois, voyez, le recensement par les travailleurs, des besoins des travailleurs, ça serait un moyen de choisir bah, là où il faut mettre des infrastructures supplémentaires. Que ça ne soit pas décidé parce que bah, là, ça va arranger tel patron ou tel maire aussi, hein, parce qu'il y a un combat de coq parfois entre les municipalités. Hein. Donc voilà, c'est de ça qu'il faudrait se préoccuper. Et j'ajoute que souvent, quand on ajoute une ligne de transport ou une route, eh ben, ça se fait pas forcément, et même ça se fait rarement, avec la concertation des habitants. Et donc là, non seulement ça impacte le fait qu'on ne réponde pas forcément vraiment aux besoins des travailleurs, du monde du travail, de la population, mais en plus, ça peut être cause de pollution, ça peut être cause de nuisances environnementales, sonores, visuelles.
Parce qu'il n'y a pas de concertation.
Parce qu'il n'y a pas de concertation, et puis on n'en tient pas compte. Ou alors il y a de la concertation, on met, voilà, c'est le grand dialogue, hein, vous savez, ouais, tout le monde a parlé, c'est super, et puis à la fin, c'est machin qui tranche. Ben non, encore une fois, plaçons ceux qui normalement nous représentent sous le contrôle des ouvriers, sous le contrôle de la population. Hein.
Si je mets le problème de la congestion de la rocade, par exemple, sur le tapis, donc là, on n'est pas dans les transports en commun, on est sur les voitures. Quel est votre avis sur la question? Parce que là aussi, il y a des travailleurs qui se déplacent en voiture parce qu'ils habitent loin, parce que les loyers sont trop chers dans la métropole bordelaise. Donc, ils n'ont pas le choix, eux.
Mais bien sûr, il y a des... Alors voilà, il y en a qui bénéficient de transports collectifs, mais il y en a où il n'y a pas de ligne, vraiment. Hein. Moi, j'ai des collègues, hein, je travaille en centre-ville de Bordeaux, j'ai des collègues qui aimeraient beaucoup pouvoir laisser leur voiture, ça leur coûte cher, et prendre les transports collectifs, ça n'existe pas. Alors, permettez-moi de vous dire que ça, hein, déjà, ça désengorgerait la rocade. Et puis là, on touche un problème général, comme je le disais tout à l'heure. Sur la rocade, il n'y a pas que des gens qui prennent leur voiture pour aller travailler, aussi pas mal de poids lourds. Et alors là, vous voyez que la politique de ferroutage, la politique de fermeture des lignes ferroviaires de fret, celle-là, voilà, évidemment qu'elle est mortelle à court terme, puisque elle met plein de camions sur les routes, elle contribue à l'engorgement, elle contribue à de la pollution, évidemment, et puis elle contribue aussi à une augmentation du risque routier, à la fois pour les chauffeurs routiers, mais aussi pour tous ceux qui empruntent les voies de communication. Vous voyez, là, c'est un problème qui dépasse largement le cadre de la mairie de Bordeaux, mais qui est un problème de choix, encore une fois, économique. Où est-ce qu'on met les moyens? Est-ce qu'on met les moyens dans les liaisons ferroviaires, ou est-ce que, vas-y, c'est tout sur le routier, comme on subit ça depuis des années? Un moment, il faudra s'attaquer quand même à ces grosses boîtes de transport, à ces grosses boîtes de commerce qui ont besoin de transport, à ces grosses boîtes qui fabriquent et qui mettent des camions sur les routes. Parce que, je veux dire, les travailleurs, s'ils se révoltent pas contre eux, on finira, vraiment, on va dans le mur, quoi. Donc, c'est quand je dis qu'il faudra qu'on lutte, qu'on s'organise pour combattre ces entreprises-là, c'est vraiment une nécessité impérative, urgente, sur le plan social, sur le plan économique et puis sur le plan environnemental. Enfin, là, je vais pas faire un chapitre là-dessus, mais c'est l'évidence même. Mais encore une fois, ça sera pas au niveau individuel que ça se jouera. On peut faire des gestes, on peut trier ses déchets, bien sûr. Bien sûr, on peut faire tout ça. Mais le robinet qui produit les voitures qui polluent...
Il
est dans la propriété, dans la propriété privée des moyens de production, des usines, etc.
Alors Fanny Coindal, pour Lutte Ouvrière, candidate à Bordeaux, si vous prenez l'émission en cours, je rappelle. On a traité pas mal de thématiques, et puis maintenant on aimerait bien ouvrir le volet questions diverses, parce qu'on n'a pas trop parlé de santé, on n'a pas trop parlé de métropole, on n'a pas trop parlé de plein de choses. Donc chacun notre tour, posons notre question sur le sujet qu'on veut, en fait. Hugo.
Eh bien, justement, t'as lu dans mes pensées, le volet santé, il est extrêmement important. Alors je m'y connais malheureusement assez peu. Je sais par exemple qu'il y a pas mal de partis de gauche qui ont des programmes contre les déserts médicaux, mais l'accès à la santé, pour le coup, c'est une chose qui se fait sensiblement sur le plan local. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus.
L'accès à la santé, oui, son organisation, et là on le voit bien avec l'actualité du coronavirus, son organisation, elle se fait pas au plan strictement local. Hein. On voit que pour les hôpitaux, hein, par exemple, l'agence régionale de santé, bah, elle est régionale, hein, et elle est sous l'égide du ministère de la Santé, donc qui est nationale. Donc là encore, la mise en musique, j'ai envie de dire, des politiques de santé, elles se pratiquent, évidemment, hein, sur le plan local, mais ces décisions, elles sont prises à une plus haute échelle. Néanmoins, et les combats engagés par les services des urgences, mais pas seulement, par les services hospitaliers dans leur intégralité, ont montré que bah, les luttes, elles pouvaient être locales, organisées sur un plan national, parce qu'elles rencontrent, comment dire, une adhésion générale, en fait. Donc, les travailleurs des hôpitaux, les soignants, comment dire, ils ont la capacité de se battre à la fois pour leurs conditions de travail, mais également, et là, il le disait, il le répétait hein, dans ses luttes, hein, pour faire leur travail correctement pour les patients, pour leur accueil, pour les soins, pour la qualité des soins. Et pour faire en sorte aussi que la médecine, ça ne soit pas quelque chose qui devienne, enfin, qui a déjà commencé à être à deux vitesses. Vous voyez, donc c'est un combat vraiment auquel, comment dire, auquel on ne pourra pas échapper si on veut sauver nos peaux. Là, aujourd'hui, on parle énormément du coronavirus. Ça permet de, quand même de mettre le doigt sur un phénomène qui est que, bah, enfin, qu'on connaît, hein, qui est que bah, les urgences, les services hospitaliers, ils sont saturés à la moindre alerte. Je ne dis pas que l'alerte coronavirus, elle est bénigne. Mais enfin, chaque hiver, hein, quand il y a la grippe, on entend déjà, bah, ça y est, on est limite, ça y est, il y a des patients dans les couloirs, sur des brancards. Donc, ce combat-là, il faudra également le mener pour réclamer des emplois, pour réclamer des rémunérations correctes, pour réclamer que les soignants puissent prendre leur congé. Là, on entend des mesures sur le coronavirus, et c'est vrai aussi sur la grippe, qui dit aux gens, au personnel hospitalier, bah écoute, faut venir, ouais, toi t'es en arrêt maladie, mais enfin ça serait bien que tu viennes quand même. On est où là? Enfin, c'est complètement irrationnel, ça veut dire que...
C'est un peu compliqué.
Ça ne tient pas debout.
Effectivement. Je prends la suite, à moins qu'Eléa et Mélissa, non, ça va, se battre pas. sur le volet santé à Bordeaux, il y a eu quelques on va dire, points positifs. Il y a eu l'ouverture, enfin, point positif, chacun juge comme il veut, mais l'ouverture d'une salle de shoot pour les personnes, pour qu'elles puissent avoir un centre d'accueil, ce genre de choses. Il y a des maraudes qui sont organisées, il y a pas mal de choses pour essayer d'améliorer la santé, et y compris la santé des sans-abri, notamment sur l'hygiène. Est-ce que vous voyez des choses immédiates à faire pour Bordeaux, là, pour améliorer encore la situation?
Déjà, sur l'accueil des patients qui ont des papiers, qui n'ont pas de papiers. Vous voyez, déjà, il y a ça aussi, parce qu'il y a des populations qui sont hyper fragiles aujourd'hui. Donc ça, il y aurait énormément de choses à faire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de papiers, il rentre nulle part, c'est ça ?
Il peut rentrer, mais c'est de plus en plus compliqué. Déjà, est-ce qu'il sait où il doit aller ? Est-ce que pour une consultation médicale, faut un interprète. Enfin, vous voyez, c'est extrêmement pourtant simple à comprendre et pour autant difficilement mis en œuvre. Pas parce que les personnels s'y refusent, hein, au contraire, hein, mais parce que il y a un manque de moyens. Et puis les mesures que vous avez citées, les maraudes, hein, pour s'occuper par exemple des sans domicile. Eh bien, oui, mais aujourd'hui, ce sont des solutions malheureusement palliatives. Nous, on pense que s'il y avait suffisamment de structures d'accueil de santé, il n'y aurait pas besoin de maraude. Ça veut dire que les gens, ils seraient conscients des endroits dans lesquels ils peuvent se rendre, ils y seraient correctement accueillis, il n'y aurait pas des files d'attente, il y aurait des heures d'ouverture qui seraient correctes. Je prends un exemple aussi, la situation de l'hôpital Saint-André, qui est en centre-ville, avec le service des urgences. Bah, cette situation en centre-ville d'un service d'urgence qui est hyper utile, qui est tout le temps d'ailleurs très très occupé, voire à la limite de la saturation, eh bien, pourquoi ça s'est remis en cause encore une fois? Mais il faut se concerter avec les habitants. C'est ultra précieux, un service d'urgence en centre-ville. Donc, vous voyez, tout ça, ça contribuerait, maintenir tout ça, et évidemment l'améliorer, ça contribuerait quand même à élever un degré sanitaire, un niveau sanitaire dans la population. Mais encore une fois, ça ne sera pas tout seul. Et le simple pouvoir d'un élu n'y suffira pas. Quand vous prenez un hôpital... Dans le conseil d'administration d'un hôpital, il y a une représentation municipale. Mais c'est une représentation. Ça veut dire qu'encore une fois,
c'est juste,
même
une personne
maire,
qui a le droit de donner son
ouvrière, avis. Bah, bien sûr. Vous voyez, c'est, les autorités sanitaires, elles sont organisées au plan national et elles dominent ça. Donc il faudra vraiment des luttes massives, vraiment nombreuses des soignants pour se faire entendre. Et, pour, et des patients, évidemment, hein, de la population tout entière.
D'accord, il y a une question de représentativité de la population qui n'est pas là, clairement, selon vous, dans, le, dans la mairie de Bordeaux, dans l'organisation du système...
Alors là, je parlais des conseils d'administration des hôpitaux, mais on, voilà. Non, la population, elle est à l'écart, là.
Bon, on va finir avec Mélissa, qui vous a préparé un petit jeu, qui a été pioché des propositions sur les programmes d'autres candidats, pour avoir votre avis. Un avis court, hein, puisqu'on est en fin d'émission, donc l'idée, c'est pas trop d'argumenter, c'est de dire pour, contre... Peut-être une petite phrase. Mélissa, tu ne coupes pas la règle, qu'est-ce que je te sers ?
Un café allongé.
Un café allongé, G.
Café allongé.
Allez, à la tienne.
Alors, je commence ces propositions avec Nicolas Florian, qui représente la tête de liste des Républicains. Il propose dans son programme de doubler le rythme de production de logements pour étudiants et jeunes travailleurs. Il souhaite également atteindre le niveau de 25% de logements sociaux d'ici 2025. Est-ce que vous êtes pour ou contre ?
Je suis pour, mais Florian, le dauphin de Juppé, que ne l'ont-ils fait pendant toutes ces années ? On croit à ses sornettes ou pas ? Voilà.
En matière de démocratie et de participation locale, il propose également de créer un poste de médiateur municipal par quartier et d'instaurer le droit de pétition locale. Pour ou contre ?
Pour, à condition que ça soit suivi des faits. Une pétition, c'est bien. Si les travailleurs d'un, si les habitants d'un quartier ou les travailleurs la font appliquer, c'est évidemment mieux. Je pense pas que ça soit ce que cet individu est en tête.
Thomas Cazenave, le candidat de La République En Marche, propose quant à lui de créer le transport à la demande, de jour comme de nuit, avec une flotte constituée de 100 minibus TBM. Pour ou contre ?
Qui finance ?
Bonne question.
Monsieur Cazenave, avec les impôts des contribuables, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la gratuité des transports à faire payer par les capitalistes. Et ça, je pense que monsieur Cazenave n'est pas d'accord.
Il propose également de porter à 75% la part de l'alimentation bio et locale dans les restaurations collectives. Pour ou contre ?
Pourquoi pas ? Ce qui compte, c'est que les enfants, ils aient tous à manger correctement. Et que ça soit pas du greenwashing d'élus en mal de côte écolo.
Bruno Paluto, lui, propose dans son programme de baisser les impôts locaux et de réserver les aides et logements sociaux aux personnes françaises défavorisées. Pour ou contre, c'est le candidat pour Rassemblement National.
Contre, évidemment. Et je dirais que ça contribue à faire, voyez, à dresser des divisions entre les habitants, entre les travailleurs, entre des êtres humains, qui au contraire, le monde du travail, il faut qu'il soit uni dans ces luttes, dans les quartiers. Vous voyez, tout ce qu'on disait tout à l'heure, ça marchera que si les gens, ils sont conscients de leurs intérêts communs. Voilà, et qu'ils marchent pas dans des combines de défenseurs de la bourgeoisie, parce que c'est à ça que ça revient, les propositions de... cet individu.
Philippe Poutou, le candidat du NPA, souhaite désarmer la police municipale et démanteler le réseau de caméras de sécurité. Pour ou contre ?
Philippe Poutou, le candidat du NPA et de France Insoumise. Moi, je pense que, effectivement, ce qu'il faudrait, c'est lutter contre les violences policières. On l'a vu dans les manifestations, les gilets jaunes qui ont eu à subir cela. Après, quels moyens mettre en œuvre ? Moi, je voudrais approfondir un petit peu le sujet.
Il souhaite également créer des conseils de quartier composés d'habitants. Pour ou contre ?
Pour, à condition qu'encore une fois, on ne dise pas que ces conseils d'habitants, enfin, ça ne soit pas des discussions, parce que ça existe déjà, en fait, les comités de quartier.
Ça existe déjà dans les quartiers. En fait.
Permettez-moi de vous dire, au Grand Parc, ils ont fait des réunions de quartier sur le stationnement, et puis à la fin, c'est les habitants qui payent. Donc, oui, bien sûr, mais à condition que ça ne soit pas des vœux pieux, que ça ne soit pas incantatoire, et que ça soit suivi des faits, encore une fois, sous le contrôle de la population. Pas laisser croire, s'il vous plaît, que c'est en ayant des représentants à la mairie que tout se fera.
Pierre Urmic, dans son programme, souhaite faire appel au référendum d'initiative locale pour les projets majeurs. Pour ou contre ?
C'est vague, c'est ampoulé.
Il propose également de tarifer le prix des services publics en fonction des revenus. Donc ça concerne les transports, aller à la piscine, le sport ou les musées. Pour ou contre ?
Contre.
Allez, une dernière proposition.
C'était la dernière.
C'était la dernière. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Fanny Candal, d'être venue. Vous levez le doigt, vous avez droit à la parole, bien sûr.
Merci. C'est... Alors, je voulais dire deux choses. Le café était très bon. Et aussi, on a une réunion publique demain, vendredi 6 mars, dans le quartier du Grand Parc, à la mairie de quartier, à 18h30. Donc, une réunion publique, bah, justement, où on va discuter de tous ces sujets-là. Donc, les moyens pour s'y rendre. Le tram C, arrêt Grand Parc, ou le bus numéro 15, arrêt Place de l'Europe, je le dis parce qu'on a parlé pas mal de transports collectifs, donc vous êtes les bienvenus. Et puis bah, le 15 mars, si vous voulez voter pour le camp du monde du travail, votez pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.
Voilà, rendez-vous dans les urnes et merci beaucoup Fanny d'avoir passé une heure avec nous à boire du café virtuel. On va vous en offrir un vrai par la suite.
C'est quand même sympa.
Si le sujet des élections municipales vous intéresse, sachez que le prochain candidat, ça sera lundi, ça sera le candidat de Gilles Garçon pour l'UPR. Et mardi, nous diffusons le candidat écologiste Pierre Humic que nous allons enregistrer dans la journée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et ce soir, vous avez rendez-vous avec Eléa à la Croisée des Ondes à 17h, votre mag culturel. T'es prête, Eléa ?
Toujours.
Toujours. Tu sais de quoi tu reçois, tout ça ?
Alors, Hugo sera avec nous pour une chronique cinéma, il me semble.
Oui, avec grand plaisir.
Puis une chronique jeux vidéo, une chronique musicale et un retour, je crois, sur le festival des toiles filantes auquel Mélissa et Nicolas ont participé.
Tout à fait.
Excellent. 3 heures de musique sans interruption publicitaire vous attendent. C'est ça, l'esprit Radio Campus.